Voulez-vous même donner la charité pour l'amour du bon Dieu? Je me présente. Joe Lavez. Puis c'est moi qui vais vous accompagner dans votre visite. Je connais le coin comme personne. Un bien drôle de nom, Lavez, que vous me direz. Ils m'ont donné ce nom-là parce qu'ils trouvaient que je bagoulais. Je bagoulais, point. C'est que moi, j'ai de la comprenure. Puis comme je peux aussi leur chanter des complaintes, je suis devenu Lavez. Les Canadiens français, eux autres, ils s'amusaient à m'appeler Joe la cornemuse parce qu'en fait, une Vez, c'est une cornemuse. Ça les amusait bien de m'appeler de même du temps qu'on travaillait ensemble sur la construction de l'intercolonial. Ben oui, j'ai pas toujours été quêteux. J'ai travaillé, moi et tout, sur le chemin de fer. Ben, juste la dernière partie, celle de la baie des Chaleurs qui reliait Mont-Joli à Campbellton. Vous auriez dû voir ça. C'était le dernier bout pour rassembler tout le Canada, toi. C'est Sandford Fleming lui-même qui a fait l'inauguration en 1876. Ah oui, en passant, ça veut-tu que ça porte la chance, un bout de ruban d'inauguration? Ben moi, je peux te le dire, parce que j'en ai pris un bout du ruban Fleming. Et puis depuis ce temps-là, ben la chance, elle me suit partout où je vais. Il y avait des gens, des bien bons hommes qui travaillaient là-dessus, sur ce chemin de fer-là. Puis, croyez-moi ou pas, il y avait même un prêtre qui nous a suivis tout le long. Ben oui, c'était l'abbé Charles Gay, un bien bon bonhomme. Les gars l'aimaient, cet homme-là. Avec lui, c'était pas compliqué. Je peux te dire qu'on passait bien plus d'heures à se conter des histoires qu'à faire nos prières. Si tu vois ce que je veux dire. Quand on est arrivé où les rivières se rencontrent, ben, je veux dire, où la Restigouche puis la Matapédia se mêlent, lui, il a pensé que les montagnes en face de lui, il devait avoir des bien bonnes terres par ce qu'il voyait d'en bas. Fait qu'un beau jour où le temps était bien boucaneux, le Vlotipa qui réussit à convaincre Jules Lagacé de monter avec lui, juste pour aller voir. Ils sont partis tous les deux, puis ils ont grimpé le chemin de la côte du McDavid pour aller voir ce qu'il y avait plus loin. Mon Jules avait bien beau d'être courageux, il a manqué de dévirer plusieurs fois, mais le père Charles, il voulait se rendre en haut. C'est comme si, dans sa tête, il voyait qu'une fois rendu en haut, il serait plus proche du paradis. Ben, les deux paltoquets, ils se sont rendus. Quand ils sont revenus, ils n'ont jamais voulu nous faire savoir ce qu'il y avait en haut. Ils disaient, « Vous n'avez rien qu'à faire comme nous autres si vous vouliez être connaissants. » Puis là, ils riaient, les deux sapristis. Toujours bien qu'à l'automne de la même année, Jules est revenu avec son neveu Alcide Lagacé. Ils ont remonté la côte du McDavid, mais cette fois-là, ils ont décidé d'y passer l'hiver. Il y était quatre qui sont montés. Il y avait Jules puis son neveu, mais il y avait aussi Sandy McDavid puis William McCallum. On l'appelait Bill McCallum. McDavid, c'était un Irlandais. Son ancêtre était venu durant la crise de la patate en Irlande, vers 1845. McCallum, lui, c'était un Écossais de Matapédia. Son grand-père, avec deux de ses gars, sont débagagés de Glasgow en Écosse. Il y a un des gars qui s'est installé à Matapédia, puis l'autre à Gaspé. Puis ils se sont jamais revus. Toujours est-il que les McDavid puis les McCallum se partageaient la même montagne. Quand c'était un McDavid qui parlait de sa montagne, c'était la montagne du McDavid. Puis quand c'était un McCallum qui parlait de sa montagne, ben, voulait-il pas que la montagne changeait de nom? Sapristi, c'était drôle de les voir aller. Toujours bien que les quatre gars ont décidé de passer l'hiver en haut. Alcide puis McCallum avaient 18 ans, McDavid 16 ans, puis Jules était majeur. En tout cas, c'était des jeunesses qui prévoyaient s'établir pour la famille. Ils se sont fabriqués un abri avec des bouts de bois puis des branches, puis ils ont passé l'hiver en haut. Moi, ils m'ont conté qu'ils avaient passé l'hiver à bûcher pour pouvoir se bâtir des cabanes de colons le printemps d'après. Rendu au printemps, la cabane à Alcide était prête. Ça fait que là, il a fait venir deux de ses frères, Thomas puis Évariste, et puis sa sœur Célina. Ils se sont installés puis ont commencé à défricher la terre. Il y avait de la comprenure, Alcide. Il savait choisir une terre avec bien des érables, puis une tête de ruisseau pas trop loin. Il savait qu'avec une terre de même, il réussirait. Il a travaillé, puis par beau temps, il allait faire ses dévotions à la chapelle de Matapédia. Dans ce temps-là, c'était les missionnaires de Restigouche qui venaient dire la messe. Si vous avez le temps, là, puis que vous me le permettez, je m'en vais vous conter comment les missionnaires ont réussi à convertir les Micmacs. Voyez-vous, avant l'arrivée des Blancs, les Micmacs croyaient que la terre puis tout ce qui existait avait été créé par Guizulg, un personnage mystérieux. Après un certain temps, Glooskap était né du tonnerre. Et enfin, Nogami, la grand-mère de Glooskap, était née de la rosée. Cette femme-là était très sage et connaissante. Puis les Micmacs, ils avaient bien du respect pour cette femme-là. C'est comme ça que les missionnaires n'ont pas trop eu de misère à les convertir. Parce que pour eux autres, les personnages se ressemblaient. Guizulg devenait Dieu et Sainte-Anne devenait Nogami. C'est drôle pareil, hein? Comment ça se ressemblait? C'est donc là, sur le perron de la chapelle à Matapédia, qu'Alcide a remarqué sa femme à venir, la belle Artémis. En 1880, la chapelle de Matapédia est inondée. Mais ça n'empêchera pas Alcide d'aller accrocher son fanal, les bonsoirs, chez la belle Artémis. L'année d'après, ils se sont mariés. Comme il disait dans le temps, la belle Artémis est à manger pour la grosse ouvrage. C'était une belle grosse créature en santé. En 1882, c'est l'année où Alcide et Artémis ont eu leur premier enfant, Marie-Louise. Cet enfant-là a été baptisé à la maison. Vous comprendrez que c'était pas simple d'aller à Restigouche faire baptiser un enfant. Puis comme le missionnaire passait de temps en temps, ben il attendait. C'est cette année-là que le père d'Alcide, est venu s'installer avec sa deuxième femme et puis leurs enfants. Ils se sont tous mis à défricher les lots pas bien loin d'Alcide. C'est en 1884 que j'ai revu Alcide pour la première fois depuis l'intercolonial. Le père Charles Gay, oui, le même qui nous avait suivis durant la construction du chemin de fer, il avait été nommé missionnaire à Restigouche. C'est après lui avoir rendu une petite visite comme quêteux qui m'a dit qu'Alcide s'est installé en haut du McDavid. Je devais voir ça de visu. Le père Charles m'a offert de me rendre avec lui un peu plus tard durant la semaine. Je me suis donc présenté chez Alcide. J'ai cogné, puis une femme m'a dit d'entrer. C'est là que j'ai dit « Voulez-vous bien me donner la charité pour l'amour du bon Dieu? » La femme m'a répondu « Ben là, mon mari est occupé à bras d'acier, mais vous pouvez entrer puis l'attendre. » C'est ça que j'ai fait. Elle ne parlait pas pour rien dire, la Artémis. Finalement, j'ai dit que j'allais attendre son mari dehors pendant qu'elle réglait ses affaires avec le père Charles. Je me suis donc tiré une bûche puis je me suis jouqué pour mieux voir. Sapristi, il y a eu du jus de bras qui a coulé par ici. Je voyais qu'il y en avait qui avaient des chevaux, mais la plupart avaient juste des bœufs pour travailler. Ils se sont grouillés en sapristi, ces colons-là. Le petit pas Alcide qui s'en revient. Je prends mon mouchoir pour m'en faire une rubandelle, question de lui faire marquer que je suis là. J'aurais bien dû penser que jouqué comme j'étais, il pouvait juste pas me voir. Le v'là qui rit de moi, leur nord. Je débarque de mon joucoin puis je m'en vais le voir. Il a l'air bien content de me voir. Je lui dis que le père Charles est dans sa maison avec sa femme, qu'on est venu leur faire une petite visite. Et il me répond que ça tombe bien parce que soir, ça a fait à mon père, Michel. Puis tous ses enfants ont décidé de se rassembler. Il me demande si j'aurais pas emporté mon violon par hasard. Je lui réponds « Bien sûr ». « Tant mieux, les créatures vont être contentes. » On est entré, puis Artémise nous a dit de se laver pendant qu'elle débitait à poule du fricot. On a passé toute une soirée à se raconter ce qu'on avait fait depuis qu'on avait fini le chemin de fer. Puis Alcide m'a conté que les missionnaires, ils étaient pas tous comme le père Charles. Il y en avait qui voulaient qu'ils descendent la côte les vendredis soirs pour aller adorer le Très-Saint-Sacrement. Alcide, il me dit, je ferai ça quand on aura une place ici pour le faire, pas avant. Avant de nous en retourner le lendemain, le père Charles les a tous invités au pèlerinage pour la fête de Saint-Aune, qui organisait pour le 26 juillet de l'année d'après. Ils ont tous dit qu'ils y seraient. J'ai dit que je ne manquerais pas ça pour tout l'or du monde, moi non plus. Et on l'a bâti, ce chemin de fer-là. Fais sûr qu'on va en profiter pour l'essayer à cette heure. Le père Charles s'est démené comme un diable dans l'eau bénite pour la mission de Restigouche pendant qu'il était là, lui, de 1884 à 1888. L'année avant qu'il arrive, la chapelle avait brûlé. Et puis, il ne restait pas une scène pour bâtir. Le père Charles a dit, « Pas de problème, on va vous arranger ça, moi. » En 1885, c'est 400 pèlerins puis 20 prêtres qui font l'essai du train puis qui ont débarqué à Restigouche pour la neuvaine de Saint-Aune. Dans une lettre de juillet 1888 adressée à l'évêque qui refuse de bénir puis de payer les nouvelles cloches de la nouvelle chapelle de Restigouche, le père Charles écrit à l'évêque puis entre autres amabilité, il lui dit « Il est parfaitement connu que vous demandez un sou, c'est comme vous arrachez le cœur puis vous saignez aux quatre membres. » Et me semble d'y voir la face à Monseigneur Blais. Tout un personnage, le père Charles. Je me suis rendu à chaque été visiter mes bons amis du village Lagacé. Évarès et Alcide avaient déjà trouvé leur moitié, puis les autres, Ambroise, Henri, Hilarion, Célina, Édouard, François, Homère, Paul puis Dominique allaient suivre dans les années d'après. Si vous voulez bien vous asseoir quelques minutes, m'en va vous chanter la complainte d'un malheur qui s'est passé de par ici. La complainte de Faustine. Écoutez tous la complainte que je m'en vais vous chanter. Ses parents ayant le cœur si tendre ne pouvaient le supporter. Ô grand Dieu sur cette terre, d'envie trouva la mort. C'est une jeune fille bien sage, se croyant bien loin de son sort. Parti pour un long voyage, désirant s'engager et de se faire instruire dans le chemin de la vertu. Matapédia grande route le long du rocher Saint-Louis. L'eau a monté sans doute, la pauvre fille s'est noyée. Qu'est-ce qui en fait la surprise? Ce jeune homme charretier, quand il aperçoit la fille dans l'eau sur le rocher, il lui tendit une corde et lui dit, viens mon enfant, viens ici que je t'aborde, je te recevrai dans mes bras. La fille s'y qu'elle ne s'aperçoit de rien. Le rapide continue pour l'amener encore plus loin.
Le jeune homme mort lui-même, regardant toujours au loin, pensa en lui-même, grand Dieu, quels sont vos desseins? Il fallait aller chez son père, c'était pour l'avertir. Aussi sa tendre mère, qui sera d'abord surprise. Vous connaissez la tendresse d'une mère pour son enfant. Dieu, qui est la bonté même, l'a voulu dans cet instant. Le père si affligé prend le chemin tout seul. Il pleure, il se désole, pensant la retrouver. Ils ont dit à son cher père, retourne à ton logis. Nous irons, nous autres, ensemble, la chercher nous aussi. Au bout de 5-6 semaines, son corps ils ont retrouvé. Elle était encore toute belle, pas du tout défigurée. La vertu de son scapulaire, sa médaille pleine d'indulgence, n'a pas permis que dans l'eau, son petit corps soit resté. Ils sont partis tous ensemble, c'était pour l'enterrer. On voyait toute la famille, tous bien attristés. Ils sont partis tous ensemble, c'était pour l'enterrer. On voyait toute la famille s'agenouiller pour prier. Si vous voulez bien savoir quel jour elle s'est noyée, je le tiens dans ma mémoire, c'est le 20e jour de mai. Elle se nomme Alphonsine, jeune fille de 18 ans, qui Dieu, qui est la bonté même, la voulait en cet instant. Si vous voulez bien savoir qui ce qu'en a fait la complainte, c'est une de ses parentes qui va bien la regretter. À la fin, je vous demande un pater et un ave pour que Dieu place son âme dans sa sainte éternité. À la fin, je vous demande un pater et un ave pour que Dieu place son âme dans sa sainte éternité.
En 1891, Matapédia a eu un prêtre qui est resté là. Et puis, 3 ans après,
la mission des Micmacs passe au Père Capucin. Et disions que dans ce temps-là, il y avait 10 familles d'établis. Moi, je dirais qu'il y en avait plus que ça, mais qu'ils les ont pas toutes trouvées. Il y en a qui se sont installés au rang 4, d'autres au rang 7, puis il y avait toute la gang du village Lagacé. Moi, je croirais qu'ils s'avaient trompé. En 1898, il était rendu 28 familles qui vivaient dans un rayon de 4000 au village Lagacé. Le curé qui venait à ce temps-là à l'école du village, François-Xavier Ross de Matapédia, il a demandé à l'évêque d'établir une desserte au village Lagacé. Même, les colons y auraient une visite chaque mois, sur sommet, pour y administrer les sacrements. Vu le nombre de familles et puis le nombre d'enfants, le curé proposait deux instructions. Une l'avant-midi et puis une autre l'après-midi. C'est en novembre que l'évêque accepte et place la colonie du village Lagacé sous le patronage de Saint-André. Le lot 13 du rang 3 du village Lagacé est réservé pour les bâtiments de la future paroisse et pour le cimetière. Ça se trouve, cette même année-là, que le nouveau missionnaire, Ulrich Théophile Dumas, arrive à Saint-Laurent. Il a demandé à l'évêque d'ajouter un dimanche à tous les deux mois pour le village Lagacé. Bonne affaire, qu'il disait Alcide. Les petits vont pouvoir apprendre le petit catéchisme puis faire leur petite communion. C'était toute une affaire. Il fallait que les petits apprennent par cœur 32 leçons. Puis là, je vous parle pas des prières ordinaires, là. Ensuite de ça, le prêtre leur posait des questions dans ce qu'ils avaient appris. Puis s'ils savaient pas les réponses, ben, il fallait qu'ils retournent étudier. Il y a encore d'autres familles qui sont arrivées. Les Trépanier, les Leblanc, les Bernard, les Berthelot, et puis les Cyr. En 1900, il y a eu une épidémie de petite vérole. On avait beau fumiger les maisons, ça se répandait. Je peux vous dire que j'ai pas bretté dans ce coin-là cette année-là. Mais c'est sûrement pas pour soigner les enfants, mais... Cette même année-là, le conseil municipal menaçait d'amener en cour 3 résidents qui vendaient de la boisson forte. Ils auraient donc dû comprendre que c'était un remède puis qu'il fallait bien que quelqu'un le vende. Quand je suis revenu en 1901, je ne dis pas que j'apprends qu'une chapelle a été bâtie. Mais pas où elle était supposée l'être. En plus, c'est le missionnaire Dumas qui avait fait un emprunt au seigneur Fraser de Fraserville. 360 piastres, oui. Puis pour y dire la messe tous les deux mois. Je sais point comment ils pensaient repayer Fraser, mais c'était pas avec les quêtes, certains. Hein. Il s'est mis à louer les bancs pour venir à la messe. Une pièce par année. C'était pauvre colon. Il manquait de rien, mais de l'argent, ça tombe pas du ciel. Puis, juste au cas où vous le savez pas... Ils pouvaient couper du bois sur les terres, mais ils ne pouvaient pas en vendre. C'était juste pour les bâtiments qu'ils avaient besoin, puis le chauffage. L'année d'après, je te dis que le missionnaire Matt, il n'a pas niaisé avec ça. Cette dette-là. Avec les syndics, ils ont demandé à l'évêque la permission de prendre l'argent de la chapelle pour rembourser ça au plus sacrant. C'est cette même année-là qu'est arrivé Picot Lagacé. Son vrai nom, c'était Ludger. Mais il n'y a personne qui l'appelait de même. Lui, s'est installé sur le lot 3 du rang 6. Un ben bon gars, lui aussi. Ça se trouvait être le cousin à Alcide. Ouais. Leur père, c'était des frères. Picot, c'était le gars à Hilaire. Puis Alcide, le gars à Michel. La petite vérole faisait moins de ravages. Mais le conseil municipal a quand même voté un règlement pour obliger le monde à se faire vacciner. Je te dis qu'il me craignait encore plus cette année-là. Pas assez qu'il avait peur que je leur jette un mauvais sort, il avait peur aussi que je lui transmette la maladie. J'ai dû coucher dans les granges cette année-là. Pas question que je dorme sur les bancs de quêteux.
Et puis les créatures sont mises à adorer les reliques, oui. Ils passaient des heures en adoration devant leur reliquaire à prier pour ne pas perdre un des leurs. Quand je suis revenu en 1903, toute une nouvelle qui m'attendait. Ernest Bérubé avait réussi à accrocher son fanal pour fréquenter la belle Artémise Bugeaud, la maîtresse de l'école du village Lagacé. Puis c'est cette année-là qu'il l'a mariée. Elle était venue de Carleton pour enseigner à la petite école. Dans cette tournée-là, j'ai su aussi que le prêtre missionnaire Matt avait béni l'emplacement du cimetière sur le lot 14 là, du rang du chemin Kemp. C'est cette même année-là que la chapelle de Matapédia brûle encore une fois. Fait deux fois en deux ans. Comme ils n'ont pas assez de pratiquants catholiques pour former une paroisse, ils demandent aux habitants du village Lagacé s'ils seraient intéressés à se joindre à eux pour enfin former une paroisse. Ils acceptent et c'est comme ça que Matapédia est devenue la paroisse Saint-Laurent. Le conseil municipal a bien essayé de s'opposer, mais ça n'a rien changé. À ce temps-là, le missionnaire comptait dans son rapport 51 familles, 278 hommes, d'installés dans la municipalité du canton de Ristigouche-Saint-André. L'année d'après, en 1905, le père Matt est parti, puis le père Sirois est arrivé. Tant que Saint-Laurent était une mission, les prêtres allaient puis ils venaient après deux ans au maximum. Certains sont restés un an seulement. C'est cette année-là qu'Honoré Lapointe est arrivé sur le lot 4 du rang 6. Le curé Labelle, Arthur Buis, Alfred Pelland, ils parlaient tous de Saint-André comme si c'était la place à venir s'établir. Le journal Rimouski même, organe du colon qu'il l'appelait, il en parlait aussi. L'année d'après, Charles Desbiens arrive sur le lot 10 du rang 7. Les habitants de la partie sud-est de la municipalité, qui étaient pour la plupart des Anglais, après avoir vu que les habitants du village Lagacé puis ceux de Manzatlamen s'étaient ralliés à Matapédia, ils décident eux aussi de se séparer. La première assemblée du conseil municipal à se tenir en français au village a eu lieu en novembre. Et Achille Beaulieu a été élu maire. À chaque année, je continue à venir faire un tour dans le coin, puis je rencontrais des nouvelles personnes à chaque fois. En 1907, c'était Joseph Leblanc qui s'installait sur les lots 9 et 10 du rang 6, tandis que Michel Parent il s'installait sur le lot 16 du rang 7. En 1908, c'était le départ du Père Sirois de Saint-Laurent. Père Sirois, c'est un sérieux, lui. Dans la même année, il a instauré deux confréries. La confrérie du Saint-Sacrement, le premier vendredi de chaque mois. Il s'agissait, en fait, dans l'adoration du Très-Saint-Sacrement pendant une heure dans le silence. Puis en échange de cette pratique-là, on promettait aux membres l'extirpation des vices de l'intempérance et du blasphème, la conversion des pécheurs et la persévérance des justes. L'autre, c'était celle du Mont-Carmel. Ça visait à unir les sympathisants en les invitant dans la communion à collaborer au salut et au bien de tous. Le pape Jean XXIII, y accordait aux membres de cette confrérie-là la délivrance du purgatoire. Le samedi après leur mort. De tous les confrères du Mont-Carmel qui auraient été fidèles à l'esprit et aux règles de la confrérie. C'est cette même année qu'on a émis le décret pour la construction d'une chapelle en bois, qui servira plus tard de sacristie pour la prochaine église. Et puis on a modifié la chapelle existante pour en faire un presbytère, soit une élévation d'un deuxième étage. En 1909, c'est le décret d'érection en paroisse, puis c'est l'arrivée du père Victor Côté. Puis c'est la création d'une fabrique avec 8 marguilliers. Achille Beaulieu, Théophile Beaulieu, Joseph Fortier, Honoré Loubert, Joe Bernard, Michel Parent, Amédée Landry
et John Charbonneau. Le père Côté avait des grandes ambitions. Avec les Marguiviers, ils conviennent d'emprunter 3 500 $ pour la construction de la sacristie-chapelle en bois. Le 15 novembre 1909, on procède à l'érection d'un chemin de croix dans la nouvelle sacristie-chapelle. Les terres de Saint-André étaient célèbres. Même Alfred Pellan, dans son livre « Vaste champ offert à la colonisation et à l'industrie », il en parle avec des témoignages de colons vivant ici. Adélard Dufour, John Cyr, Lazare Leblanc, Pierre Fauché. Puis le 4 novembre 1910, on procède à la bénédiction de la cloche offerte par J.A. Baillargeon de Seattle, l'État de Washington aux États-Unis. La cloche est nommée André Majoric Victor. C'était le 13 juin 1910 que les colons ont assisté à la bénédiction de la sacristie-chapelle. Le mois suivant, le père Côté procède à la bénédiction d'une statue de Sainte-Anne, un don d'une demoiselle M.H. Guy de Fall River au Massachusetts. À la fin septembre de la même année, juste avant son départ, le père Côté procède à la bénédiction d'une croix au rang 8 et 9 et renomme le rang Saint-Victor. Le nouveau curé, J.B. Langlais, arrive, puis il repartira l'année d'après pour être remplacé par le père Pierre Veilleux. Quand je suis revenu en 1911, les colons étaient partis, puis les terres se vendaient. Cette année-là, Achille Beaulieu achète 3 lots au rang 6. Puis ça a continué de même pendant quelques années. Juste en 1912, c'est 6 colons qui ont abandonné. Puis les terres ont été revendues à des colons qui sont restés. L'année d'après, encore 4 familles qui partent. Les lots vendus. En 1914, 2 autres. Il fallait être fait fort. Cette année-là, il y avait pas mal de monde qui travaillait au moulin sur le ruisseau Gilmore. C'est comme ça qu'ils ont demandé qu'une messe soit dite une fois par semaine pour les travailleurs. C'est en mars 1914 que la première messe a été dite là. 1915, changement de curé. Le père Veilleux part, puis le père Joseph-Philippe Pelletier arrive. Encore 7 familles qui partent, les lots sont vendus. Les Lagacés se débrouillent bien, eux autres. Ils ont des belles terres, les colons vont et viennent. Il y en a qui partent, d'autres qui arrivent. Bon, ben. C'est pas mal ça qui s'est passé dans ces années-là. Mais on va vous laisser. Mais vous savez lire, vous autres, non, hein? Mais il y a plein d'affaires à lire. Puis si ça vous tente, bien, vous pouvez essayer de répondre aux petits questionnaires qu'il y a sur la tablette du haut. Il va y avoir un tirage à la fin de l'année. Puis si vous gagnez, bien, vous allez être bien chanceux parce qu'ils vont vous donner un panier avec toutes sortes de bonnes affaires faites avec la sève d'érable. Ah oui, en passant. Moi, si j'étais à votre place, là, je regarderais ça comme il faut, ces lutrins-là. Bon, ben, là, moi, je vais vous souhaiter une bonne année, puis le paradis à la fin de beaux jours. Puis surtout, n'oubliez pas de dire, quand on vous demandera, « Voulez-vous bien me donner à charité pour l'amour du bon Dieu? » Ben, répondez, « Mais bien sûr! »